Pour ce 7e Radio Barque seconde partie, notre invité aujourd'hui est Jean-Louis Rio, à la fois maire de Bâche, d'Aude et vice-président du Grand Narbonne chargé, alors pour l'occasion aujourd'hui, des transports. Dans une première partie, Jean-Louis Rio, vous nous avez déjà bien décrit comment fonctionne le système. Quand même, revenons un petit peu sur cette insatisfaction que vous avez évoquée sur les lignes d'autocar, c'est-à-dire le périurbain.
Oui, donc sur le
qui semblerait être un peu insatisfaisant.
Voilà, donc là on a donc soit des sous-exploitations, soit des surexploitations. Donc il nous faut effectivement regarder de plus près pour pouvoir rationaliser réellement notre demande. Donc une des pistes que nous allons véritablement creuser, c'est cette piste du transport à la demande, donc je dirais nouvelle version, qui nous permettra d'être plus performants et de vérifier que les parcours qui sont proposés sont efficients par rapport à la nature du demande que nous avons. Donc il est évident que nous avons mis en place il y a quelques temps une navette, notamment par rapport à l'hôpital privé du Grand Narbonne, à Montredon, et donc c'était vraiment une offre de service qu'il fallait absolument réaliser, et donc là on a déjà des retours de résultats qui sont bons. Donc il faut vraiment regarder ligne par ligne quelles sont celles qui sont réellement à privilégier et celles que l'on pourrait, alors je ne vais pas dire supprimer parce que je ne veux pas faire peur à qui
que ce soit, peut-être,
voilà, à optimiser, on va prendre le terme d'optimisation,
voilà, qui est beaucoup plus positif. À propos de ce que vous dites concernant donc la polyclinique de Montredon, donc très important parce qu'il y avait une certaine polémique à ce niveau-là. On a appris également tout récemment que la gratuité du parking semble acquise et va être débloquée très très prochainement, d'après ce que nous a dit monsieur le maire de Narbonne.
Voilà, alors la gratuité du parking de Montredon a été une des contreparties qui avait été négociée avec l'hôpital privé, c'est-à-dire heure. Voilà, une heure de gratuité et non pas la gratuité totale.
Ah, ça sera pas la gratuité totale.
Non, non.
Voilà. Bon, mais
une heure de gratuité au lieu de, je crois que c'est une demi-heure aujourd'hui.
Oui, voilà. Donc c'est un petit geste qui est fait à ce niveau-là, mais bon, ça oui. L'opposition, par exemple, au conseil municipal de Narbonne a posé ce problème-là. Bon, on ferme la parenthèse puisque ça n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un sujet qui intéresse tout à fait les Narbonnais.
Tout à fait.
Alors maintenant, ils ont des bus et quand même un service de bus bien fourni, je crois.
Tout à fait. Je crois que c'est une amplitude horaire qui va de 6h50, je crois, le matin, jusqu'à 20h le soir, ou même un peu plus tard, avec une rotation évidemment beaucoup plus forte sur les heures de pointe, et puis ensuite quand même une rotation régulière. Les premiers résultats que nous avons, comme je vous le disais, sont extrêmement positifs, et on voit bien qu'il y a un intérêt.
Ben là, il y a une forte demande.
Voilà. Et puis aujourd'hui, donc cet arrêt qui s'appelle Pêche-Péry, du nom du parc d'activité, il faut bien voir aussi que l'hôpital privé du Grand Narbonne ne sera pas la seule entreprise de ce secteur, et que bien évidemment cette zone d'activité donc du Pêche-Péri est amenée à se développer avec d'autres entreprises, avec d'autres constructions, et qu'il faut pouvoir apporter ce transport aux gens qui vont venir travailler sur ce secteur-là. Donc la liaison va passer évidemment par la gare de Narbonne. Il y a des gens qui vont aussi venir par la gare et qui irriguent. Alors après, en termes de rabattement, un mot un peu technique, on excuserait, mais c'est vrai que grâce aux citadines, par exemple, un habitant de Narbonne peut récupérer l'autre ligne et en partant des citadines récupérera la ligne régulière pour pouvoir se rendre notamment dans cette zone d'activité. Nous avons également d'autres lignes qui sont sur les autres parcs d'activité, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le Grand Narbonne a fait des mesures de transport pour pouvoir irriguer l'ensemble de ces zones d'activité qui, je le rappelle, sont une compétence du Grand Narbonne.
Voilà, mais celle-ci aura un rôle sans doute un peu particulier sur le plan public du fait de la fréquentation médicale de cette polyclinique. Voilà.
Bien entendu.
Voilà. Donc, en ce qui concerne les bus, voilà un tour d'horizon. Je pense que les auditeurs ont un petit peu compris. Un tout petit mot, mais à peine, bien entendu, il y a tout un attirail de divers abonnements. On a vu tout à l'heure ce que rapportait d'ailleurs la billetterie, mais c'est important pour les auditeurs, donc et pour les citoyens. Alors, quand on veut savoir ce qui se passe, on va à la site, comment elle s'appelle, la boutique qui est Citibus. À la gare, la boutique qui est à la gare routière, et là on obtient tous les renseignements qu'il faut.
Tout à fait. Il y a une offre assez importante en termes de coûts de transport, donc avec des cartes d'abonnement, et on pour un coût qui est extrêmement limité. On a eu le débat au conseil communautaire sur une éventualité de gratuité des transports. Nous n'y avons pas été pour un certain nombre de raisons et qui tiennent un petit peu dans l'explication de ce que je vous ai donné au départ, c'est-à-dire la répartition du financement qu'il y avait. C'est-à-dire que pour vous prendre un exemple très concret que nos auditeurs puissent bien l'avoir en tête, lorsque Montpellier, par exemple, organise sa régie de transport, ils ont un coût global de leur régie de transport qui est environ de 100 millions. Leur versement mobilité, c'est-à-dire ce qui est versé par les entreprises, qui, on le disait pour nous, est de 8 millions sur un coût global de 15 millions, il se trouve qu'à Montpellier, ce versement transport, il est de 110 millions.
Donc au-dessus du budget.
Au-dessus du budget. Ouais.
Donc alors qu'il est à un petit peu plus de la moitié sur Narbonne.
C'est
donc,
cela.
On comprend la différence.
Voilà. Et en plus, alors avec des artifices, je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails, mais si vous voulez, lorsque vous êtes sur la gratuité, vous perdez le bénéfice, par exemple, de la récupération de la TVA et autres, vous êtes assujetti. Et donc, la perte de ce type de recettes vous augmenterez considérablement. Le coût supplémentaire pour le Grand Narbonne aurait été de près de 3 millions, hein, les études que nous avions faites. Qui plus est, je dois dire aussi que dans le débat, c'est aussi les utilisateurs, c'est-à-dire les chauffeurs eux-mêmes qui ont été interrogés. Nous avons fait également sur cette gratuité, nous avons interrogé un grand panel d'habitants, et il est avéré que la principale des préoccupations des gens n'était pas la gratuité, puisqu'on a un coût très bas qui est non, quand on prend le coût
oui, avec les abonnements et toutes ces
choses-là, vous avez presque 40% déjà des trajets qui sont gratuits et d'autres qui sont très très faibles, voire à 1 euro ou 2 euros le coût de transport. Les habitants, lorsqu'ils ont été questionnés, nous ont surtout interpellés sur une offre supplémentaire de transport.
C'est-à-dire
ben justement ces transports à la demande, une optimisation des transports beaucoup plus pratiques, plutôt que d'aller vers la gratuité. Voilà. Donc, et là, c'est 70% des personnes interrogées. La gratuité n'intervenait dans notre questionnaire qu'en quatrième point et à peine 10% de la population.
Donc, ça n'était pas une priorité qui ressortait.
Ça n'est jamais été une priorité.
Voilà. Alors, encore un mot. Maintenant, sur l'avenir, vous avez prononcé le mot plusieurs fois, Jean-Louis Rio, de délégation de service public pour l'entreprise Keolis. Alors, un petit peu d'explication administrative, pas trop, mais quand même que les gens comprennent comment une entreprise est là, et qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle doit faire.
Très bien, oui. Alors, si vous voulez, on parle de compétences. Vous savez que les collectivités, que ce soit le Grand Narbonne ou les communes, on a un certain nombre d'obligations, hein, des obligations légales qui nous reviennent. C'est-à-dire que nous devons organiser les choses. C'est ce qu'on appelle la compétence transport. La compétence transport, elle est dévolue intégralement au Grand Narbonne, qui a fait le choix, historiquement, de la déléguer à un partenaire privé pour l'accomplir. Alors c'est le cas depuis donc deux marchés publics, on est dans le cadre des marchés publics, de délégation de services publics, qui ont été confiés donc pour 8 ans sur le présent contrat à l'entreprise Keolis.
Donc ça va jusqu'en 24, en août 2024.
Tout à fait. Et dans ce cadre-là, donc moyennant un forfait de rémunération, donc nous avons dit donc ce forfait de rémunération, il est basé sur le nombre de kilomètres réalisés, mais également avec un certain nombre d'autres éléments qui sont les personnes transportées, les kilomètres et évidemment le nombre de matériel en place, avec l'investissement par le prestataire sur les bus et les autocars.
C'est-à-dire les bus lui appartiennent.
Alors,
les locaux, non, je crois.
Les locaux sont à nous. Les locaux sur le Grand Narbonne sont mis à disposition des délégataires. Les bus, donc, sont acquis au fur et à mesure de la délégation par le prestataire. Et lorsque l'amortissement de ces véhicules... Alors, je m'excuse, on est un peu dans le technique, mais alors, l'amortissement de ces véhicules est fait, ils reviennent à la collectivité.
Ah, ils deviennent propriété de la
voilà, commune. Au bout de la fin de l'amortissement. Mais évidemment, c'est un point qui est relativement crucial et qui est très important, notamment par rapport à la mise en concurrence, on va en parler, si vous voulez, c'est que en fonction du fait qu'une entreprise, par exemple, titulaire aujourd'hui, Keolis, qui serait propriétaire de l'ensemble du matériel, bah, il aurait bien évidemment, je dirais, une marche d'avance sur ses concurrents. Donc, nous sommes dans le cadre de cette délégation, nous sommes en train de regarder de façon à pouvoir mettre à disposition donc tous les bus, donc le réseau urbain, et avoir une convention qui nous permettra donc d'avoir les autocars, l'interurbain, dans le cadre de la délégation.
Alors, un petit mot sur les... Alors ça va se faire donc l'année prochaine.
Oui.
Combien de temps ça dure? 8 ans?
8 ans.
Voilà. Donc, vous allez ressolliciter certaines entreprises. Grosso modo, lesquelles sont-elles? Parce que c'est limité, ce genre d'offres.
Oui, excusez-moi. Oui, il y a aujourd'hui, je dirais, trois grands groupes qui se partagent le marché des transports en France. Keolis, on vient de le dire.
Donc
l'actuel, qui est une filiale de la SNCF. Le deuxième groupe qui s'appelle Transdev, qui lui est une filiale de la Caisse des dépôts. Et le troisième groupe, dont le nom sera étranger à personne, qui s'appelle RATP Dev. Et donc, comme son nom l'indique, effectivement, est une filiale de la RATP, mais dédiée à l'ensemble du développement des transports sur les autres territoires que le territoire francilien. Ces trois entreprises très importantes, parce qu'il faut effectivement qu'on ait une entreprise très importante sur ce type de contrat, puisque vous représentez bien que 126 bus, c'est
oui,
pas une petite affaire.
Il faut les reins solides quand même.
Voilà, voilà. Donc, bien évidemment, le personnel, alors il y a une petite spécificité, si vous voulez, dans les DSP, c'est que le personnel aujourd'hui, qui est sur sa fiche de paye Keolis, si demain ça venait à changer, le personnel n'est pas renvoyé et repart avec le prestataire.
Il est repris automatiquement par le nouveau prestataire.
Tout à fait. Ça a quand même son importance,
ah oui,
parce que effectivement,
sur le plan social.
Exactement. Hein, donc ça, c'est une obligation qui est faite et donc ça fonctionne très bien dans tout le pays, hein, pas simplement à Narbonne. Voilà, c'est une des conditions.
Voilà, donc maintenant je pense qu'on y voit un petit peu plus clair sur la façon dont les choses se passent. Alors on va marquer une seconde pause, Jean-Louis Rio, et on va revenir un petit peu plus alors sur l'avenir des bus, et notamment que seront les bus de demain. Comment fonctionneront-ils? Seront-ils tout électriques, ou y aura-t-il par exemple des bus à hydrogène? Les réponses dans la troisième partie.